Les colloques du Collège de France.
Alors démarrons avec Cécile Maisonneuve. En quelques mots, ancienne cadre dirigeante chez Areva, présidente de la Fabrique de la Cité, non, c'est fini, mais ça, elle le fut. Aujourd'hui, donc conseillère auprès du Centre Énergie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Voilà, c'est une experte des questions énergétiques et européennes, je crois en particulier à l'Institut Montaigne. Voilà, on l'a vu hein, tout à l'heure, et puis c'est présent partout aujourd'hui, dans les médias. Voilà, la place, comment articuler France et Europe dans cette question de la transition énergétique. Je te laisse la parole.
Merci Marc à la fois pour cette invitation et cette occasion de partager avec vous, mesdames et messieurs, ces quelques idées sur un sujet qui m'occupe depuis un certain nombre d'années. Alors, tous les constats que vous allez entendre, la tentation sera grande de dire « Ah oui, mais c'est facile de dire ça aujourd'hui ». Alors, tentation alors qui me toucherait un petit peu parce que j'ai aussi une formation d'historienne. On est nombreux comme historiens à ce pupitre aujourd'hui. Et j'avoue pouvoir échapper à cette critique éventuelle dans la mesure où, il y a un certain nombre d'années, j'avais écrit quelques papiers qui, malheureusement, dont les conclusions sont malheureusement vérifiées. Alors, j'aimerais commencer par une citation. Il y a quelques mois encore, j'avoue que je n'y suis pas retournée pour savoir si ce texte est encore présent sur le site de la DG Énergie, mais vous trouviez jusqu'à la moitié de l'année 2023, cette citation, écrite en avril 2020 par la DG Énergie. Quel est le degré de sécurité de notre approvisionnement énergétique ? Il n'existe actuellement aucune menace en termes de sécurité énergétique. Le système énergétique européen a montré sa résilience. L'électricité, le gaz et le pétrole parviennent là où ils sont nécessaires, et en particulier là où nous en avons le plus besoin. C'est un texte donc qui date d'avril 2020 de la DG Énergie. 2 ans plus tard, la réalité est un peu différente. On est au cœur de la crise énergétique. Nous sommes au printemps 2022. Et ces deux photos, pour moi, illustrent assez bien un certain nombre des problèmes, des défauts de fabrication de cette politique européenne de l'énergie. Alors, vous aurez reconnu sur la photo de gauche le ministre allemand de l'économie, vert, Robert Habeck, qui fait au printemps 2022 sa tournée des États du Moyen-Orient, notamment pour sécuriser un certain nombre d'approvisionnements gaziers de son pays. On a parlé tout à l'heure du sujet court terme, long terme. C'est un des sujets de discussion. Et puis la deuxième photo, c'est l'un des premiers grands déplacements d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, après son élection. Il fait une tournée des pays d'Afrique. C'est pas si naturel pour un chancelier allemand, du moins c'est la vision qu'on en a, de s'intéresser à ce continent. Et là, c'est intéressant parce qu'il est, au terme d'un périple qui l'a emmené dans plusieurs pays du continent africain, il est avec Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Et alors, moi, je vois plusieurs choses dans ces deux images mises ensemble. D'une part, c'est que quand on parle de politique européenne de l'énergie, les États sont présents, très présents. Très, très présent. On rappellera qu'au terme des traités, même s'ils sont, on le verra, rédigés avec des ambiguïtés remarquables, les États ont la maîtrise de leur mix énergétique. Et finalement, ce que fait Robert Habeck ou Olaf Scholz, c'est tout à fait normal dans une période de crise, on va voir des fournisseurs. Première leçon. Deuxième leçon, et ça c'est Mario Draghi qui l'a rappelé, notamment à ses collègues allemands à l'époque, accompagné se faisant par les autres pays de ce qu'on appelait le Club Med de l'Europe, le Premier ministre grec, le Portugais, l'Espagnol, qui a quand même rappelé aux Allemands qu'il y avait un certain principe de solidarité qui pourrait être utile dans cette période de crise. Il avait eu des mots que je vous invite à relire parce qu'ils étaient assez clairs. Et troisième chose que je trouve très intéressante dans cette image, c'est oui, on avait eu une crise, alors pour moi elle n'est pas tout à fait finie, Est-ce qu'on est prêt pour la suivante ? Parce que finalement, le texte que je vous ai lu pose une question majeure, massive, de résilience, un mot qu'a employé Jean-Paul Bout. Et quand je vois cette photo d'Olaf Scholz avec Cyril Ramaphosa, moi je vois peut-être la prochaine crise, celle qui concerne les métaux stratégiques, parce que c'est sur ce continent qu'ils sont. Celle qui concerne finalement tous ces matériaux dont on va avoir besoin pour la transition. Parce que dans le pays de Cyril Ramaphosa, il y a le port de Durban. Le port de Durban, c'est 90% par exemple du cobalt qui est extrait au Congo, qui passe par le port de Durban. Le nombre de matériaux stratégiques qui passent par ce seul port, alors généralement pour aller vers la Chine, puisque c'est là qu'ils vont être transformés, eh bien c'est un terme majeur de sécurité énergétique. Donc est-ce que, en un mot, on a vécu une crise classique de sécurité énergétique ou peut-être la première crise de la transition énergétique ? C'est une question que les historiens auront à cœur de trancher. Toujours est-il que quand on travaille sur les sujets de politique énergétique européenne, on peut être pris d'un certain sentiment de découragement. Je partage avec vous ce texte. Alors, si vous le lisez, vous vous dites, tiens, ce serait pas mal d'écrire ça en 2025, on sera 17 ans après l'entrée de la politique énergétique officiellement dans les politiques communes européennes, puisque c'est en 2008 avec le traité de Lisbonne que cette politique, pourtant l'un des fondements de la construction européenne, se voit reconnaître ce statut de politique commune européenne. Eh bien, si vous demandez quand est-ce qu'a été écrit ce texte, précisément, il date de 1970. C'est un article du Monde sur le bilan adressé de la CECA, le premier acte avant, j'allais dire, de l'Europe, de l'énergie avant l'Europe. Et donc, je vous le disais, on peut se dire finalement, est-ce que cette Europe de l'énergie est atteignable ? Est-ce que ce qui lui était reproché en 1970 est quand même encore assez actuel ? Ne montre pas qu'on poursuit une sorte de chimère à essayer d'articuler des échelles, puisque c'est une question qui a été posée, des échelles difficilement articulables, puisque les États, d'une certaine manière, seront toujours les États, avec cette dose d'hypocrisie dont on va reparler, et une construction comme l'Union européenne étant peut-être condamnée à des déclarations ambitieuses si elle veut exister. Alors c'est un peu ce qu'on va essayer de traiter dans les minutes qui viennent, avec en trois points. D'abord, je reviendrai sur un peu où on en est, une sorte de photo actuelle de cette crise qui, pour moi, s'écrit encore au présent à travers toutes ces ramifications multiples. Pour ensuite, j'évoquerai finalement le travail sur les causes. Alors c'est vrai que quand on, à quelques mois des élections européennes, on est tenté de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Mais je pense que pour savoir ce qu'il faut faire, il faut peut-être revenir précisément sur les causes, d'autant que des débats actuels politiques ont eu lieu sur ce qui est finalement le fait déclencheur de cette crise. Et puis une proposition finalement, donc j'assume un peu le côté provocant, je propose de passer de ce pacte vert à un pacte de puissance, d'un Green Deal au Power Deal. Alors, le constat, la photo actuelle, vous avez entendu les débats sur une forme que je qualifierais de révisionnisme historique qui attribue l'intégralité de la crise au déclenchement de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est le 24 février 2022 que se déclenche la crise à cause de l'agression russe. La séquence n'est pas tout à fait celle-ci. Dès 2021, à la sortie de la crise sanitaire, on commence par une crise pétrolière avec un désajustement assez classique sur les marchés pétroliers entre l'offre et la demande après l'effondrement de la demande avec la crise sanitaire. Ça s'accompagne assez rapidement d'une crise gazière. Et là, dès l'été 2021, on voit les livraisons russes baisser, mais aussi pour des raisons conjoncturelles, les livraisons américaines et norvégiennes de gaz baisser. Et puis, il y a cette crise dans la crise, c'est la crise du système électrique, due en partie à la défaillance du parc nucléaire français en 2022, mais aussi à celle du système hydroélectrique européen, pour des raisons de sécheresse. Même la Norvège est touchée, elle l'était déjà d'ailleurs au cours des mois précédents. Donc on voit bien que, comme toujours, quand on analyse une crise, quand on fait un peu d'histoire, il faut regarder la cause immédiate, conjoncturelle, mais qu'il est pas inintéressant de se pencher sur les causes structurelles. Les causes structurelles d'une crise qui se traduit aujourd'hui, alors j'aurais pu mettre quantité quantité d'éléments, mais par, d'une part, un différentiel, ça a été évoqué, de prix entre notamment l'Europe et son concurrent américain, toujours impressionnante. Les prix du gaz, c'est 5 fois plus cher, l'électricité 2 fois plus. Et ce qui est frappant de constater, c'est que si on voit aujourd'hui le prix du gaz revenu à la normale sur les marchés, le prix de l'électricité qui s'effondre sur les marchés de gros, au point de questionner la rentabilité des actifs existants, sans parler du financement des investissements à faire, on est tenté de se dire, bon, voilà, retour à la normale, finalement, on retrouve des choses qu'on connaissait bien. Mais le fait est que l'Europe est essorée par cette crise, et notamment son système industriel. Et le problème que ça pose de voir cet effondrement de la demande gazière, voir cet effondrement de la demande électrique, c'est, s'agissant de la demande gazière, elle est largement due à des problèmes industriels massifs et à un début de désindustrialisation. Alors, nous, me direz-vous, on est habitués en France, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Le problème, c'est ce qui se passe outre-Rhin. L'industrie allemande va mal, va très mal. Et l'un des exemples les plus frappants, deux chiffres au cours de la semaine passée, parce que c'est chaque semaine qu'on voit les symptômes de ce mal, c'est d'une part, on apprend que les investissements des entreprises allemandes aux États-Unis en 2023 ont connu un niveau historique. Historique. Quelle surprise! J'ai encore dans l'oreille le conseiller économique d'Olaf Scholz disant: mais vous savez, l'Inflation Reduction Act, c'est parfait pour les entreprises allemandes. Le résultat, le voilà. Deuxième élément, ça c'est, vous aurez peut-être reconnu cette annonce de, alors c'est un industriel suisse, mais qui produit en Allemagne. L'Europe va perdre 10% de sa capacité de production de panneaux solaires à cause de la délocalisation de cette entreprise aux États-Unis, Colorado, Arizona. Et alors, moi j'ai été très frappée par les déclarations du président de Meyerburger. Il a dit, on va aux États-Unis. Alors, il y a les raisons fiscales. Il va investir 262 millions d'euros. Il va toucher en crédit d'impôt 1,4 milliard d'euros. L'Inflation Reduction Act, c'est très concret. C'est ça. C'est très concret, très rapide. Coucou le Green Deal. Et ce qu'il a dit surtout, c'est l'objectif, c'est de nous rendre indépendants des décisions politiques prises en Europe. Donc, on ne peut être plus clair. On ne peut être plus clair. C'est vraiment une approche, une vision de long terme, pour le coup, d'absence de foi dans la capacité de l'Europe à répondre aux problèmes. Alors, on pourrait être tenté de dire, mais c'est résolu, regardez, on a le Net Zero Industrial Act, qui est un peu la réponse européenne à l'IRA. Il a été voté. Son entrée en vigueur, c'est des années. C'est toujours le même problème. Demandez à un responsable européen de vous résumer le Green Deal. Je pense qu'au bout de 3 heures, vous ne savez pas, en tant qu'entreprise, en tant qu'investisseur, combien vous allez gagner, combien de temps ça va prendre, exactement ce qui va se passer pour vous. En 3 minutes, vous avez une idée très précise des crédits d'impôt que vous aurez si vous investissez aux États-Unis. C'est aujourd'hui la réalité brute de ce qui se joue en matière d'industrie entre les deux continents. Alors, pourquoi c'est préoccupant? C'est préoccupant parce que on a des investissements massifs, on le sait, à faire dans notre propre transition. Que pour ce faire, on a besoin à la fois que les investissements soient faits dans l'industrie traditionnelle, qui doit décarboner ses processus de production, et d'autre part, que des investissements soient faits pour accueillir cette nouvelle industrie, celle des batteries, des panneaux solaires, celle de ces nouveaux vecteurs et de ces nouveaux outils nécessaires à la transition. Or, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se crée de nouvelles dépendances avec cet affaiblissement de notre système industriel. Et un exemple, cette semaine, un quotidien économique se faisait écho d'un rapport remis au Premier ministre sur la souveraineté alimentaire, parce que c'est le thème à la mode en France. Et l'un des points de faiblesse de cette souveraineté alimentaire, c'est que, ça se situe très en amont, c'est que nous importons 80% des engrais nécessaires à notre agriculture. Alors c'est vrai, on peut dire, bah finalement, mettons pas d'engrais, c'est la position d'un certain nombre de personnes. C'est vrai que ça simplifie le problème, enfin, ça le complexifie par ailleurs. Et ces engrais, on les importe d'où? Quand vous regardez, majoritairement de pays non Union européenne, ça s'appelle les États-Unis, le Qatar, la Russie, Trinidad, voilà. Donc c'est ça la réalité des conséquences de cette crise. Autre conséquence, c'est que aujourd'hui, les États, on a parlé du financement, leurs finances publiques sont largement essorées par la succession de crises. Rappelez-vous, Covid, plan de relance, 750 milliards. Et puis, la crise énergétique, donc ça, ce sont les chiffres de Bruegel. 2020-2021, on a décidé de consacrer 750 milliards d'une relance verte post-Covid. Eh bien, en 2022-2023, on a consacré la somme équivalente au bouclier, soutien aux ménages, aux entreprises, c'est-à-dire beaucoup d'énergie fossile en réalité. Donc on a fait à peu près l'inverse de ce qu'on avait fait ou dit qu'on allait faire dans le cadre de la relance verte. Donc dans ces conditions-là, vous voyez bien que les États ne sont plus, ils n'ont jamais été d'ailleurs, mais on l'a longtemps cru, la seule réponse en termes de financement de la transition et qu'il va falloir faire appel au secteur privé. C'est ça le sujet en ce moment, c'est comment on mobilise le secteur privé sur des projets intéressants de la transition. Et à l'évidence, la situation nous affaiblit. Alors, voilà un tableau, pardonnez-moi, il est un petit peu noir, mais qui me fait dire qu'aujourd'hui, cette crise, elle est encore très 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 présente, et cela a été fort bien dit par Jean-Paul Bout, on affronte en réalité une crise économique majeure qui est le fruit de la défaillance du système énergétique européen. Alors revenons précisément aux causes. Alors, vous l'aurez compris, si on veut travailler sur les causes, faut regarder un petit peu ce millefeuille. Il faut essayer de démêler cet écheveau, ce qui n'est pas facile, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a un premier problème, c'est qu'on a des textes européens d'une ambiguïté folle, s'agissant de qui est responsable de la politique énergétique. On a à la fois la réaffirmation du principe de souveraineté des États, mais aussi le fait que les institutions européennes ont en charge les énergies nouvelles, des objectifs en matière d'efficacité énergétique. Alors on y lit aussi qu'elles ont une responsabilité sur la sécurité d'approvisionnement, mais qui est rédigée de telle manière qu'on ne sait pas bien si c'est la sécurité de long terme ou de court terme. Si c'est court terme, après tout, les marchés court terme de l'énergie n'ont pas si mal fonctionné en Europe. Et puis, surtout, on voit qu'il y a un loup, en fait, il y en a eu deux qui sont entrés dans la bergerie, qui s'appelle concurrence et environnement. Alors, j'ai repris cet extrait de la préface qu'a faite Marcel Boiteux de l'excellent livre, c'est une sorte de bible pour qui s'intéresse au sujet énergétique, écrit par Jacques Percebois et Jean-Pierre Hansen, il y a eu plusieurs rééditions, qui dit effectivement, ça décrit un sujet, j'allais dire, administratif, technocratique, bien connu. Quand vous avez une compétence, vous avez tendance à vouloir l'exercer pleine et entière. Il se trouve que la concurrence, c'est de la compétence pleine et entière des institutions européennes, et il se trouve qu'elles avaient, avec le démantèlement, ces fameux unbundling, ce découpage des grandes entreprises énergétiques traditionnelles entre la production, le transport, vous avez un secteur idéal. Et donc, la concurrence a longtemps été, finalement, a longtemps tenu lieu de facto de politique énergétique. Et puis, à partir de 2008, c'est devenu une politique commune, et puis il y a eu les objectifs 3x20, et là, il y a une autre politique qui est entrée en jeu, c'est l'environnement. Et on a notre politique énergétique qui s'est retrouvée coincée en sandwich entre ces deux politiques qui ont pour caractéristique, que ce soit la politique de concurrence ou la politique environnementale, de méconnaître ou de n'avoir pas d'intérêt pour le concept de sécurité énergétique. C'est pas dans leur ADN, c'est pas leur objectif. Et donc la sécurité énergétique, vous me pardonnerez l'expression, elle est passée à l'as. On en voit le résultat aujourd'hui. Deuxième problème du droit, je le disais, c'est que les États membres sont encore très présents dans la politique énergétique européenne au titre des traités. Et là, vous avez un exemple archétypal qui est la célébration de la signature Nord Stream, et vous reconnaissez des visages connus, pas qu'allemands d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, la Commission s'est prononcée contre le projet. Pour le coup, on la critique toujours, mais vous lisez les déclarations du commissaire espagnol de l'époque, il met en garde très vigoureusement Il faut dire que le terrain a été préparé par quelqu'un qui est redevenu Premier ministre de son pays aujourd'hui, Donald Tusk, le Polonais, qui à l'époque va devenir président du Conseil et qui, en 2014, après les événements de Maïdan, met en garde contre ce projet dont il dit qu'il n'a absolument rien à faire en termes de sécurité énergétique. Tout au contraire, je rappelle que Nord Stream, c'est 80% du gaz venu de Russie qui passe par un seul et même tuyau et que ça fait que 60% du gaz allemand vient de Gazprom. Nord Stream, c'est donc un projet de facto monopolistique. Mais là, notre chère direction de la concurrence n'a pas eu son mot à dire. Cela était fait. Deuxième problème, c'est que on le connaît par cœur, hein, et ce n'est pas la France qui va donner des leçons, je pense, de politique, de comment enlever les silos à l'Europe. Mais le fait est que ce que j'ai décrit tout à l'heure sur ces convergences ou ces divergences de compétences au sein de la Commission dessine un paysage extrêmement complexe avec des équilibres mouvants qui tiennent aussi à la qualité des personnes, il faut bien le dire, et à un certain nombre d'équilibres entre les États ou d'équilibres politiques. Donc, on l'a particulièrement connu pendant cette commission avec des relations notoirement médiocres, on va dire, pour être très soft, entre certains dirigeants des institutions européennes. Vous ajoutez à cela des États membres qui, dans ce contexte de crise, je le disais tout à l'heure, n'ont pas forcément fait preuve d'unité. Et là, on est en mars 2020 au Conseil qui se tient, 2022, pardon, qui se tient à Versailles, hein, où l'Europe commence à essayer de s'entendre sur les réponses à apporter à l'attaque ukrainienne. Et puis, au sein de la Commission, des directions générales qui se battent entre elles pour, sur ces questions de compétences. Alors, on pouvait dire, tout va bien, on a décidé de nommer un vice-président finalement en charge, vous voyez ici Frans Timmermans, qui était, jusqu'à ce qu'il quitte la Commission européenne pour prendre la tête d'une liste écologiste et socialiste aux Pays-Bas, dont vous connaissez le succès, jusqu'à ce qu'il prenne la tête de cette liste, il était vice-président en charge du Grenil. Donc le Grenil était incarné, ce qui est finalement une manière aussi de faire poids, contre-pied, ou de nuancer ce poids excessif des États. Le problème, c'est que on a eu affaire, et vous aurez peut-être un avis différent, je serais ravie d'en débattre, je pense à une vision très idéologique de ce qu'était, de ce que devait être ce pacte vert. Pourquoi je dis idéologique ? C'est qu'il est conçu en 2019. En 2019, on est avant la crise sanitaire, on est avant la crise géopolitique, on est avant la crise agricole. Et à chaque crise, ce qu'on entend, c'est « Ah, mais finalement, notre pacte, il est tellement bon que, regardez, il est parfaitement adapté à la crise. » Et donc, c'est fabuleux parce qu'on s'aperçoit qu'on a un pacte très plastique qui est toujours pertinent. Et donc, à chaque fois, on a les mêmes déclarations. C'est très bien, on continue, on y va. Et quand vous regardez, il a aussi une inspiration qui ne correspond pas du tout à ce qu'est la transition énergétique, cette révolution industrielle, cette réindustrialisation qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. C'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup et pas moins. Or, vous lisez les déclarations de Kadri Simpson lors de son audition de confirmation devant le Parlement européen. Moins nous allons consommer d'énergie et moins il faut installer d'énergie. Le côté intermittent, pas intermittent, est totalement gommé du paysage. Les réalités techniques et physiques n'existent plus. Sachant par ailleurs qu'on n'investit pas du tout ce qu'il faut dans les réseaux. Deuxième point, inutile de commenter la phrase du commissaire à l'environnement lors de la présentation du projet Farm to Fork. Alors, en fait, on s'aperçoit que ce que j'appelle l'ordre énergétique européen était bâti sur trois sujets qui étaient largement trois mythes. Et je dis ordre énergétique parce que je compare en fait à l'ordre de sécurité qu'on a dans le domaine militaire. Il est l'OTAN, l'Europe de la défense, un sujet débattu depuis des décennies dont on n'arrête pas de débattre, on continue encore aujourd'hui. En revanche, cet ordre-là, il n'a jamais été vraiment débattu. Ce qui fait qu'on a eu un ordre fondé sur trois piliers plus ou moins explicites. Le premier, c'était le gaz russe. Ça, vous voyez, c'est les chiffres d'avant la crise. Et ce que vous voyez, c'est que non seulement c'était un pilier, mais c'est un pilier dont on a accru l'importance après 2014, après que la Russie a commencé à sortir du champ du droit international. On a accéléré le mouvement. Deuxième, et vous voyez là, je rappelle les déclarations du secrétaire général du SPD allemand à la veille de l'attaque russe contre l'Ukraine, où on comprend que ça va quand même se passer. Et il dit, à la veille de l'attaque russe contre l'Ukraine, il faut découpler le sujet Nord Stream du sujet ukrainien. Donc pour vous dire à quel point On était dans un schéma totalement déconnecté des réalités géopolitiques. Deuxièmement, il y avait cette vision finalement que l'ensemble de la sécurité énergétique européenne allait reposer sur une seule source d'énergie, les énergies renouvelables, avec cette citation incroyable que vous trouvez dans un rapport de 2011 du ministère de l'Environnement allemand. En gros, les énergies renouvelables, c'est la paix, c'est la démocratie, c'est vraiment l'anti-énergie fossile, si vous lisez en creux, puis un peu anti-énergie nucléaire, puisqu'elles ne peuvent pas être détournées, nous dit-on, à des fins militaires. Et ça, ce sont des récentes publicités, vous l'y trouviez encore récemment sur nos murs de l'Union européenne. Et en fait, il y a cette vision-là, que finalement, on a trouvé une source d'énergie qui apporterait la paix. Donc, ce me semble particulièrement une vision particulièrement irénique qui ne correspond en aucun cas à l'état des forces. Et puis dernier pilier, le pilier c'était qu'on avait privilégié la dénucléarisation sur la décarbonisation. Peu importe que l'énergie nucléaire soit la première source de production d'électricité en Europe, qu'on maîtrise, comme l'a expliqué Jean-Paul Bout sur le continent européen, l'ensemble des maillons de la chaîne du cycle du combustible, des réacteurs, tout, peu importe qu'un certain nombre d'États fasse confiance à cette énergie, dans des proportions certes différentes, mais quand même. L'idée, et vous le voyez dans le plan Repower qu'on a sorti juste après l'invasion de l'Ukraine, il n'y avait pas de nucléaire. Et ce qu'on vous disait à la Commission, mais pour 2030, ce n'est pas une solution. Alors, dans ce cas-là, que fait l'hydrogène dans le paysage ? Et puis, 2030, ce n'est pas une solution, c'était juste passer sous silence tout ce que j'appelle ces térawattheures virtuels qui dorment dans les réacteurs aujourd'hui, qui sont en train d'être réactivés, qui s'appellent augmentation de puissance, prolongation de durée de vie. Bref, c'était vraiment gommer la réalité du nucléaire, une sorte de cancel culture du nucléaire érigée en politique européenne. La réalité, c'est que l'ensemble de ces mythes étaient faux. Non, le gaz russe ne coulera pas de toute éternité, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y aura toujours du gaz russe. Regardez, même pendant la guerre froide, les soviétiques ont livré. La réalité, on l'a vu, est quelque peu différente. Deuxième sujet, non, les renouvelables, ce n'est pas en soi la paix, l'indépendance, la souveraineté. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est la Chine. Et c'est de plus en plus la Chine. Sur l'éolien offshore, la Chine est en train de prendre la main sur l'industrie avec des coûts qui sont incomparables. Qui sont incomparables parce que, je reprends une expression de l'expert de la Chine, David Bavrez, c'est que la Chine, de facto, est devenue notre rivale systémique pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas le choix. Sa politique d'augmentation de sa consommation intérieure a échoué. La crise de l'immobilier, la situation intérieure chinoise font qu'on va avoir une Chine plus agressive que jamais, au moment même où on a voté un certain nombre de mesures qui nous mettent de facto dans la main des technologies chinoises. Je mentionne également le sujet sur les batteries. Si vous regardez l'étude d'impact, qui est très longue, hein, pour le coup, ce n'est pas une étude d'impact à la française, du projet de loi sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035, il n'y a pas un mot sur la géopolitique, pas un mot. Beaucoup de chiffres, beaucoup d'hypothèses. On ne parle pas de géopolitique dans cette étude d'impact. Or, il me semble, si je regarde cette courbe, qu'à Pékin, on suit étroitement les évolutions du calendrier législatif européen. Et puis, sur le nucléaire, inutile de dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est un effet de mode, je ne l'espère pas, mais quand même, j'étais récemment en Estonie, pays qui a une particularité, il a un mix épouvantable, c'est du shale oil, et il faut qu'il le remplace. On a envie de leur dire, vous êtes assez proche des Finlandais, vous avez des lignes de transmission avec la Finlande, a quand même un bon gros réacteur qui demande qu'à produire, pourquoi construire chez vous un SMR, puisque c'est leur projet. Et ils vous répondent, et c'est la vision dans toute l'Europe de l'Est aujourd'hui, que tout ce qui est infrastructure de réseau, pipeline, réseau de transmission, c'est une source de vulnérabilité. Particulièrement quand on est dans la Baltique, qui est commune à un certain nombre de pays, même si on l'appelle depuis quelques jours le lac OTAN. Alors, quelles perspectives ? Je vais les dresser rapidement. Alors, on peut dresser, il me semble que, par exemple, ce que Jean-Paul Bout a dit sur ce qu'est une bonne politique de l'énergie, une bonne politique de souveraineté, ça s'applique aussi au niveau européen pour un certain nombre de leçons, notamment le côté prospectif. Mais regardons ce qui se fait en Europe, parce qu'après tout, il y a des pays qui sont intéressants. Observons, et après posons-nous la question, jusqu'à quel point ces pays-là pourraient pas être inspirants. Là, on est dans le nord de la Suède, il se passe beaucoup de choses en Scandinavie, et dans le nord de la Suède, on s'apprête à faire une révolution industrielle, à investir dans les 20 ans qui viennent des sommes qui, à l'échelle de la Suède, sont gigantesques, plusieurs milliards d'euros, à repeupler, à peupler, si je puis dire, d'une certaine manière, cette zone où se trouvent beaucoup de ressources minières et où vont s'implanter beaucoup d'industries de bas carbone. Alors, je fais volontiers, je le mentionnais tout à l'heure, la comparaison avec l'OTAN, parce que si on veut aujourd'hui se mettre dans le ton de ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est qu'on ne peut plus saucissonner la sécurité énergétique, la sécurité militaire, la sécurité économique. Aujourd'hui, ça va de pair. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire, comme David Bavrez que je citais tout à l'heure, que finalement ESG aujourd'hui, ça veut dire énergie, sécurité, guerre. Mais quand même, voilà le monde, la géopolitique dans laquelle nous devons inscrire la politique européenne de l'énergie. Je rappelle qu'Ursula von der Leyen avait dit en 2019 que cette commission sera géopolitique ou ne sera pas. Il est temps de prendre le mot au sérieux et de peut-être de lire Raymond Aron à Bruxelles. Deuxième sujet, il va falloir produire, je le disais, beaucoup d'électricité. Pas pour nous, les particuliers dans nos maisons, pour l'industrie. Regardez, les chiffres sont très importants à l'échelle de la Scandinavie. Vous les mettez à l'échelle de la France. Rien que de décarboner, par exemple, on en a beaucoup parlé, la zone de Fos-sur-Mer. Je pense que des calculs ont été faits, mais si vous électrifiez massivement, c'est plusieurs EPR, pas un demi, pas un, plusieurs. La vallée de la chimie, c'est pareil. Je ne parlerai même pas des sujets numériques. Vous aurez peut-être noté que Microsoft est en train d'embaucher une équipe, il y a un chief nuclear officer chez Microsoft, avec toute une équipe nucléaire qui sont en train d'être embauchée. Donc voilà la réalité de ce qu'on veut faire. Oui, la consommation d'énergie finale va baisser, mais en termes de politique publique, le sujet, c'est ça. C'est ça la priorité. Troisièmement, il faut faire, j'allais dire, c'est l'équivalent du burden sharing, vous savez, le partage du fardeau pour l'OTAN. Il faut qu'on prenne notre part, et prendre notre part, ça veut dire arrêter de considérer que c'est sale, donc ça doit être ailleurs qu'en Europe. Il faut regarder ce qu'on a sous les pieds. Le BRGM l'a fait. C'est une partie de leur magnifique atlas du sous-sol. J'ai choisi le Nobium parce que c'est intéressant. Mais c'est ce qui est en train de se passer aussi en Scandinavie. La Suède a annoncé avant-hier qu'elle relançait l'extraction de l'uranium. La neutralité technologique, ça c'est le projet Northern Lights en Norvège sur la capture du CO2. Alors, ça fait 40 ans qu'ils essayent, comme tous les pétroliers, et Stoltenberg, l'actuel SG de l'OTAN, a dit c'est l'équivalent pour nous du on a marché sur la Lune. Mais c'est 1,5 milliard d'euros, et il y a un partenariat notamment avec la France, parce que c'est clé pour la décarbonation de nos industries aussi. Et puis dernièrement, voilà, il faut faire de la diplomatie. Je parle, puisque je vais continuer avec la Norvège, ça c'est les chiffres aujourd'hui de ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a un allié, on a un bon allié, il est à côté de chez nous, il s'appelle la Norvège, il fait le travail. Il fait le travail, alors on le conspue quand il dit qu'il va battre un record en termes d'exploration de gaz et de pétrole cette année. Oui, d'accord, mais en réalité, nous, Européens, sommes très heureux d'avoir cet allié à nos portes. Alors, en conclusion, peu de mots, si ce n'est pour dire que cette Europe de l'énergie, en fait, on n'y a pas tellement le choix, ça a été dit tout à l'heure, entre la rivalité systémique avec la Chine, la concurrence américaine. On n'a pas le choix. La difficulté, ça va être aujourd'hui d'allier ce retour de facto nécessaire des souverainetés au niveau national et la capacité de Bruxelles à regarder plus loin, à aller plus vite. Je pense que la question de l'agilité qui a été soulignée est importante. Et puis je poserai une dernière question. On va être dans un contexte de relations internationales très tendues, avec des conflits. On peut, et c'est une question que j'avais aussi d'ailleurs au précédent intervenant, est-ce que finalement le contexte de relations internationales, est-ce que la guerre froide n'a pas énormément apporté en termes technologiques dans un certain nombre de domaines? Donc, parce que peut-être que s'il y a moins de coopération internationale, des négociations climatiques plus dures, à l'inverse, il y aura peut-être plus de concurrence entre les différents systèmes et ce qui favorisera peut-être plus d'innovation. Question ouverte. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.